Le vaccin, bon, c'est la clé pour un jour se sortir de cette pandémie. Vous venez d'entendre le docteur Poirier sur, évidemment, les opérations qui vont se poursuivre. Hier, le gouvernement fédéral, M. Trudeau, a annoncé qu'il y aura 20 millions de doses qui vont commencer à arriver quelque part au printemps, mars, avril, mais la cible demeure la même. C'est vacciner tous les Canadiens qui voudront se faire vacciner d'ici le mois de septembre. J'en parle avec le président du Conseil du Trésor et qui est aussi vice-président du comité du cabinet sur la COVID-19, Jean-Yves Duclos. Monsieur Duclos, bonjour.
Bonjour, M. Arcan, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Monsieur Duclos, d'abord, ces 20 millions de doses, c'est vraiment pour ce qu'on appelle la mi-printemps. Est-ce que vous avez des garanties ou enfin des informations sur une possibilité d'augmenter pour janvier, février et disons mars le nombre de vaccins pour qu'on puisse vacciner le plus de monde possible?
Bien, merci, M. Arcan. Si vous me permettez, je commencerai par dire qu'il s'agit évidemment d'une course internationale assez serrée, mais que depuis le début de la course, le Canada fait partie du peloton de tête. Comme on sait, le Canada a été le deuxième pays en Occident après le Royaume-Uni à avoir commencé à vacciner ses citoyens en décembre. On anticipe à peu près 225 000 doses de vaccins par semaine en janvier, 425 000 par semaine en février, et ça continue à augmenter jusqu'à 1,5 million par semaine au printemps, donc à partir du début du mois d'avril. Mais on fait tout ce qu'on peut, et ma collègue Mme Annan travaille jour et nuit pour, comme vous le dites, faire tout ce qui est possible, y compris l'annonce hier, là, pour devancer encore davantage ces vaccins.
OK. L'autre question, il y a eu ce débat qui se règle tranquillement là concernant la deuxième dose. Et ce que j'ai compris de Québec, c'est que c'est un enjeu pour Pfizer. Là, Pfizer semble faire preuve de plus de souplesse. Je lisais ce matin que dans la presse qu'on va permettre, par exemple, que les doses se déplacent vers un autre endroit, ce qui n'était pas permis avant. Le fameux délai de 3 semaines pour la deuxième dose, on pourrait... Est-ce que avec Pfizer, parce que c'est le fédéral là, qui négocie les achats de vaccins, ils sont d'accord avec le fait qu'on étire la période pour la deuxième dose pour vacciner le plus de monde possible?
Bien, comme vous le dites, M. Arcan, les discussions avec des compagnies pharmaceutiques sont extrêmement importantes. Ce sont des grosses compagnies qui travaillent avec de nombreux clients internationaux, des compagnies qui sont nerveuses aussi parce qu'elles veulent protéger, évidemment, leur réputation dans l'administration des vaccins. Je peux vous dire qu'à nouveau, sur cet enjeu, le gouvernement fédéral doit et fait son travail. À tous les jours, on leur parle. Il y a eu, comme vous l'avez dit, des développements rapides là, dans un contexte de grande incertitude au cours des dernières semaines. Le Québec et les autres provinces ont fait ce qu'elles devaient faire, c'est-à-dire d'utiliser de plus en plus rapidement les doses qui sont disponibles pour vacciner au moins une première fois le plus grand nombre possible de gens. Lorsque le gouvernement, ce que le comité consultatif national, donc à l'échelle du pays, qui travaille avec toutes les provinces, a convenu hier, c'est que selon aussi l'Organisation mondiale de la santé, un délai pouvant aller jusqu'à 42 jours entre la première et la deuxième dose pouvait être permis. Donc, 42 jours, c'est plus que le 21 jours qui était convenu initialement avec Pfizer. Mais à nouveau, là, les choses continuent à évoluer rapidement.
OK, mais Pfizer est confortable avec le 42, là. Ils vont pas retenir des stocks parce qu'on passe de 21 à 42.
Mais Pfizer s'ajuste aussi, évidemment, tout en maintenant, comme je disais, sa réputation puis sa capacité de servir des clients à l'international. Il y a, je ne vais pas dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué, mais il y a des points de vue très différents à travers le monde. Au sud de la frontière, jusqu'à maintenant, c'est 4 jours de plus maximum que le 21 jours qu'on permet. Au Royaume-Uni, c'est 42 jours. Nous aussi, c'est 42 jours qui est recommandé, selon, à nouveau, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.
OK. L'autre question. On a vu Israël être capable d'aller chercher beaucoup de vaccins. Bon, il y avait une stratégie, mais un des éléments de la stratégie, c'est qu'on paye plus cher. Est-ce que le Canada est prêt à payer plus cher les doses pour les avoir plus vite?
Le Canada a tout mis sur la table. J'en parle tous les jours avec ma collègue Mme Annan. La contrainte principale, c'est la contrainte de production de ces grandes entreprises. Ils ont une capacité limitée à court terme de produire.
Mais des fois, quand on paye plus cher, ils sont capables d'en trouver dans les entrepôts.
Non, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu principal, là, c'est de pouvoir démontrer que dans un pays comme le Canada, nous avons la capacité de livrer des vaccins. Et c'est pour ça qu'on les a obtenus plus rapidement que d'autres pays en décembre, parce qu'on était prêts. On était aussi un des premiers pays, après le Royaume-Uni, à avoir approuvé le vaccin Pfizer. Et on a un système de santé publique au Canada qui est très efficace. Fait que nos relations avec Pfizer fonctionnent très bien. Bon, ce qu'on appelle en anglais là, un « outlier », c'est évidemment le cas d'Israël. C'est un pays un peu différent là, du restant des pays en Occident. Donc, c'est en statistique, on appelle ça une observation un peu aberrante. Sinon, dans l'ensemble des pays comparables au Canada, on se débrouille, on se positionne très bien et on va continuer à travailler très fort pour que ça continue à être le cas.
OK. Là, je vais vous parler des frontières. On comprend qu'à moins que ce soit un voyage qualifié d'essentiel, la frontière par la route demeure avec les États-Unis, là, fermée au moins jusqu'au 21 février. Donc, on renouvelle. Par contre, si je ne peux pas aller en Floride en auto, je peux aller en Floride en avion. Il y a bien des gens, M. Duclos, qui ne comprennent pas ça. Pourquoi vous fermez la frontière terrestre puis vous laissez la frontière aérienne, là, si on veut, ouverte?
Ce n'est pas la décision du gouvernement canadien, M. Arcan. Au Canada, depuis le mois de mars, la frontière avec les États-Unis est fermée et particulièrement fermée à tout touriste. Il n'y a aucun touriste étranger qui peut rentrer au Canada depuis le mois de mars. On a au Canada les mesures les plus sévères au monde en matière de contrôle des frontières.
Frontières
terrestres. Ce sont les autres pays. Le problème des pays, effectivement, comme les États-Unis, comme le Mexique et comme d'autres pays, continuent à accepter des touristes chez eux et parfois même sans aucune quarantaine. Nous, c'est très différent. Le problème que l'on doit traiter et qu'on le fait de la manière la plus rigoureuse parmi tous les autres pays au monde, c'est lorsque ces gens-là veulent revenir au pays.
OK, mais M. Duclos, est-ce que vous avez le pouvoir, est-ce que le gouvernement fédéral a le pouvoir d'interdire des vols en partance de Montréal, de Toronto, Vancouver, vers des destinations soleil?
On peut se demander si on veut ressembler à la Corée du Nord où on interdit aux citoyens canadiens de quitter le pays.
Mais excusez-moi, vous m'empêchez d'aller aux États-Unis en auto, mais vous m'empêchez pas d'aller à Punta Cana.
Non, les Américains laissent les Canadiens rentrer aux États-Unis par la voie aérienne en particulier. Vous avez très bien raison de le souligner. Pour d'autres pays, évidemment, c'est aussi la voie aérienne qui est utilisée pour aller, par exemple, au Mexique, à Cuba et dans d'autres destinations soleil. Mais ce sont ces pays qui, malheureusement, permettent aux Canadiens ou à d'autres étrangers d'entrer dans leur pays, à nouveau, souvent sans aucune quarantaine. Nous, comme je l'ai dit, depuis le mois de mars, on a au Canada les mesures les plus sévères au monde pour empêcher l'entrée au Canada d'étrangers, mais aussi pour contrôler sévèrement le retour de Canadiens au pays.
Deux choses. Je repose ma question. Est-ce que vous avez au fédéral le pouvoir d'interdire des départs de Montréal-Toronto vers des destinations? Dire nous interdisons aux Canadiens de quitter. Là, je parle pas. En fait, ce que j'essaie de vous dire, je ne peux pas aller voir mes parents à Drummondville, mais je peux aller voir ma belle famille à Paris. Il y a quelque chose qui est difficile à comprendre pour les gens, là.
Ben, il y a des gens, effectivement, qui choisissent de quitter le pays, et c'est à leur péril. Et ce qu'on leur dit aussi, c'est que quand vous allez vouloir retourner, ce sera peut-être pas aussi simple que vous le pensez, avec les mesures que l'on a mises en place depuis le début, et celles qui ont été ajoutées en raison, entre autres, du nouveau variant au cours des dernières semaines. Il y a des centaines et même des milliers de Canadiens qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas revenir au Canada, contrairement à ce qu'ils pensaient, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est beaucoup plus difficile de le faire. Alors, c'est à leur risque et péril, mais on leur dit depuis le début, on leur dit depuis le mois de mars qu'il est fortement déconseillé de voyager à l'étranger.
Est-ce que vous savez, là, vous n'avez peut-être pas la réponse sous la main, là, mais combien de Canadiens ont été surpris à déjouer la quarantaine obligatoire à leur retour au pays?
Bien, là-dessus, c'est une très bonne question. Là-dessus, la santé publique canadienne fait une dizaine de milliers de contacts par jour. S'il y a des contacts qui ne sont pas établis parce que les gens ne répondent pas, ou s'il y a un léger soupçon que les gens ne respectent pas leurs obligations de quarantaine, les informations sont transmises aux autorités policières. Dans à peu près 5% des cas, ça se produit comme ça. Lorsque les autorités policières font leurs enquêtes, vont sur place, dans 98,8% des cas, ils s'aperçoivent que les obligations de quarantaine sont respectées. Et si elles ne sont pas respectées, les gens s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 $ et 6 mois d'emprisonnement.
OK, mais vous savez pas combien on en a pincé là, qui ne respectaient pas les règles?
Si vous voulez me réinviter à votre émission, M. Arcan, je vais essayer de trouver les chiffres précis. Je ne les ai pas avec moi, mais non, okay. Comme je vous le dis, là, c'est très sévère et très sérieux.
Parfait. Merci, M. Duclos.
Merci à vous. Bonne fin de journée.
Jean-Yves Duclos est vice-président du comité du cabinet sur COVID-19 et président du Conseil du Trésor.